Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, de retour dans les grandes gueules du sport. Vous écoutez RMC, merci beaucoup. Le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Retenez bien, nouvel horaire pour cette 13e saison des grandes gueules du sport. 9h midi, les GG avec ce matin Denis Charvet, Fred Weiss, Marc Madiot. Après un été noir pour son image, le rugby français veut faire sa révolution. J'y crois pas. Ce sera le bras de fer des GG dans quelques instants. Le bilan des Français à l'US Open est nul, c'est Arthur Fils qui le dit, ce sera la punchline des GG à 10h30, 10h45 les GG contre-attaquent, les grandes gueules, vous prenez comme l'année dernière les commandes de cette émission en nous proposant un débat. Vous pouvez voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport pour votre débat préféré, et le grand gagnant viendra exposer son problème à 10h45. Ok, 20 secondes pour nous vendre votre débat. Denis Charvet, tu veux nous parler de quoi?
Mais du nouveau tirage de la Champions League que je trouve sans odeur, sans charme, sans... Voilà, c'est l'ordinateur en train de tuer nos... tout tuer.
C'est fou.
Ouais, c'est fou.
C'est fou la technologie.
J'aimais les boules. Alors, des, parfois, elles étaient chaudes, elles étaient froides.
Oui, bien sûr, on sait. On te connaît quand même.
J'aimais ça.
Oui, je sais que tu aimais ça. Parfait. Le débat sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Tu n'es pas convaincu. Tu veux nous parler de ça. Parfait. Marc Madiot.
Alors, moi, je veux parler d'un truc qui m'a choqué, surpris. C'est le drapeau des Paralympiques. On n'a pas les anneaux olympiques. Ça, je trouve ça. Quelque peu humiliant pour les handisports.
Ok, pour
pourquoi
les athlètes
para. Okay. Pourquoi n'ont-ils pas droit aux anneaux?
Ils n'ont pas le droit aux anneaux, on en parlera et on vous donnera, évidemment, si vous choisissez ce débat, les informations, pourquoi il n'y a pas les anneaux du CIO pour les Jeux Paralympiques, des Jeux Paralympiques que vous pouvez suivre en ce moment même sur la radio digitale, c'est de 10h à 22h. C'est la proposition de Marc Madiot. Fred Weiss.
J'avais envie de parler du coach de l'équipe de France de basket,
Vincent
Collet, après un bail de 15 ans avec l'équipe de France et plusieurs titres et médailles glanées, il l'arrête. Ça sera plus lui le coach à partir de maintenant, le coach de cette équipe de France, donc je voulais qu'on parle un peu de son bilan, de parler de son futur successeur éventuel. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler de basket. Alors jamais. Absolument jamais, parce que ça m'énerve de fou.
Ça serait pas un peu votre Didier Deschamps, non?
Eh oui.
Comme ouais, ça, mais lui, il a su s'arrêter en tous les cas.
Oui, au bout de 15 ans. Il y a encore un peu de marge avec
alors,
Didier. Il peut.
Didier va finir à 14 ans.
C'est intéressant. Vincent Collet.
Évidemment. J'adore Vincent Collet. On a tous ses disques. Parfait. Oui. Tu veux nous parler de Vincent Collet? Allez sur le compte Twitter, le compte X, les grandes gueules du sport. On en parle à 10h45. Napoléon Bonaparte a dit un jour, la révolution doit apprendre à ne pas prévoir.
RMC. Le bras de fer GG.
C'est une polémique dont le RCT se serait bien passé. Ces dernières heures, une vidéo sur les réseaux sociaux a été diffusée avec Melvin Jaminet pour seul protagoniste. Sur cette story initialement publiée sur son compte Instagram, l'international français y tient des propos à caractère raciste.
L'arrestation en Argentine de deux joueurs de l'équipe de France de rugby. Ces deux joueurs sont soupçonnés d'agression sexuelle.
Hugo Radou et Oscar Jégou ont été formellement mis en examen ce midi, heure locale, à Mendoza.
Il y a trois semaines, Neni Dargissi disparaissait sur une plage d'Afrique du Sud. Ce jeune joueur de rugby qui était en stage avec l'équipe de France des moins de 18 ans. Quand une baignade pour récupérer après des efforts intenses a été organisée sur une plage qui était pourtant connue par sa dangerosité.
Alors est-ce enfin la prise de conscience du rugby français? Vous l'avez entendu cet été noir dans cet extrait marqué par les propos donc racistes de Melvin Jaminet, l'affaire Hugo Radou, Oscar Jégou et la disparition tragique de Mehdi Nargissi. Florian Grill a donc réuni jeudi à Marcoussis les différentes familles du rugby pour des états généraux. Objectif principal, donner un nouveau cadre de vie aux équipes de France avant la tournée d'automne. Alors pour être concret, éradiquer l'alcool, la cocaïne, en gros s'attaquer au troisième mi-temps. La révolution dans le rugby français. J'y crois pas. Dans le coin gauche, la team, j'y crois. C'est Marc Madiot. Et il est tout seul sur ce débat. Dans le coin droit, la team, j'y crois pas. Denis Charvet, Fred Weiss. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste rugby. C'est Julien Landry, notamment en rugby. Salut Julien.
Salut JC, salut à tous.
Salut.
Alors comment se sont passés ces états généraux? C'était jeudi.
Ouais, les échanges ont duré toute la matinée. Une fois évacuée la question sémantique, états généraux, groupe de travail, selon l'opposition qui n'était pas conviée, 4 heures de débat, ce qui peut paraître bien court vu la crise traversée par le rugby. Mais c'est un premier pas. Une trentaine de personnes, dont Fabien Galthié, Thomas Lombard, Didier Lacroix ou Laurent Travers, est parti en 5 groupes. Avec donc ce constat alarmant, l'alcool et la cocaïne circulent de plus en plus dans les 3e mi-temps. D'ailleurs, Oscar Jégou avait été contrôlé positif à la cocaïne lors de la reprise du top 14 et suspendu 1 mois l'année dernière. Plusieurs pistes ont été lancées, mieux former les jeunes joueurs sur les pièges de ce nouveau monde truffé d'argent et de sollicitations, doter les équipes de France d'un chef de délégation détaché du sportif, mais en charge de la vie de groupe et du contrôle des comportements, et mieux sensibiliser les joueurs donc sur les 3e mi-temps. Plus de prévention, plus de contrôle et surtout des sanctions plus sévères. D'ici un mois, la fédération devrait remettre un rapport, une feuille de route, après avoir rencontré la plupart des acteurs sur le terrain.
Merci beaucoup Julien Landry, tu restes avec nous hein, pour ce débat, en tout cas le bilan de ces états généraux, appelons-les comme ça, c'était cette semaine la révolution dans le rugby français. J'y crois pas, alors pour l'instant vous n'y croyez pas hein, chers auditeurs, on est à 21%, 79%, j'y crois, 79%, je n'y crois pas. Marc, tu es derrière, tu commences ce débat et dans quelques instants, Philippe Saint-André va venir nous rejoindre, évidemment lui qui a occupé des fonctions il y a peu encore, et il va nous donner son avis sur ce sujet. Marc Madiot, pourquoi tu y crois ?
J'y crois parce qu'il faut toujours croire et il n'y a pas de situation inéluctable. On peut bouger les lignes, on peut bouger les choses. Alors ça va sûrement être un travail délicat et difficile quand on voit l'ampleur de la situation. Maintenant, par rapport à certaines situations, il est quand même assez simple et assez facile, par exemple, de mettre des contrôles en place. Des contrôles sur la cocaïne, des contrôles sur l'alcool. On fait une troisième mi-temps, on fait un contrôle d'alcoolémie en sortant de la troisième mi-temps. C'est un exemple. Alors je sais que ça va surprendre.
Mais un joueur a le droit de boire après un match.
Oui, mais il a le droit de boire.
C'est ça le problème. Tu me dis un contrôle, mais comment
pourquoi
tu...
Pourquoi pas passer par une période. Au moins une période, se dire voilà.
C'est tout on a tout un le souci. La problématique, elle est là quand même.
On a un souci avec la troisième mi-temps, par exemple.
Oui, c'est le cas.
On va réguler la troisième mi-temps, on va tailler dans le vif et on va faire des contrôles d'alcoolémie à la sortie de la troisième mi-temps.
Ça veut dire que tu n'as plus le droit de prendre un coup.
Mais non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous dit Marc. Marc, il vous dit un club
droit
peut
de boire
dire.
Deux bières voilà. Sans te mettre sur
oui,
le toit.
Voilà, c'est pas obligé. C'est pas un club peut dire non, au-dessus d'un seuil, vous n'avez pas le droit de se sanctionner.
Si on passe ce que vous dites, les gars, on fait plus rien.
C'est utopique. Vous n'avez pas empêché quelqu'un de boire. Malheureusement.
C'est la vie et l'avenir du rugby qui est en jeu quelque part. Attends, moi je suis parent d'un gamin. Il a envie de faire du sport. Il y a une multitude de sollicitations au niveau des fédérations par rapport à différentes disciplines pour les gamins. Et c'est fort heureux. Est-ce qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai envie que mon gamin joue au rugby ?
Mais moi non plus. Mais moi j'ai des
est-ce que j'ai envie
aussi,
que mon gamin fasse du foot ? Peut-être un peu plus. Est-ce que j'ai envie que mon gamin fasse du vélo ?
Du golf.
Ou du golf. Du golf, très bien, le golf, tranquille, pépère.
Surtout, c'est le numéro 1 mondial.
Donc,
Pour moi, je parle de beaucoup de gens, le rugby est un sport magnifique. Évidemment, c'est un sport magnifique.
Si on le laisse s'enfoncer dans
mais c'est pas ça la révolution.
Je pense qu'on peut. Alors, je pense que ça passe par des moments délicats et drastiques, mais on peut. Je pense.
Tu peux pas faire la révolution contre les acteurs de ça. C'est pas possible.
Voilà, il a raison, Fred. Ce que je voulais dire, c'est dit. On parle de révolution, le mot est très fort, et c'est pour ça que j'essaie d'atténuer un petit peu mes propos, parce que, en fait, moi, j'étais manager des Barbarians pendant 20 ans, j'ai fait 12 tournées autour du monde, la fragilité a toujours été là. Le danger a toujours été là. Moi, je n'ai pas donné des leçons aujourd'hui à ceux qui sont partis en Argentine parce que on a toujours été un peu borderline, ça s'est toujours bien fini. Mais je pense que,
à partir du moment où ça se finit mal, c'est peut-être là où il faut prendre décisions.
C'est pas ça que je dis. Je dis que je pense que même moi, le premier, en 2015, 2017, 2018, je suis parti avec les garçons aussi. Mais je pense le monde a tellement changé ces 10 dernières années qu'on n'a pas évolué nous. C'est-à-dire que je veux pas taper sur personne, moi. Je veux pas taper sur l'institution. Je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait puisque c'est une première étape. C'est pas du tout une révolution, hein, parce que, comme le dit Fred, peut pas empêcher qu'un joueur de boire, hein, de boire chez lui.
Tu sais très bien que c'est pas ça le problème du rugby.
Je vais expliquer pourquoi. Parce que les joueurs, ils sortent plus en boîte. Ils sortent, ils font des espèces de boîtes de nuit chez eux ou ils se voient chez eux entre eux. Donc c'est pas la même chose. Donc tu peux pas.
C'est pas la même chose, mais un joueur de rugby peut se responsabiliser comme un joueur de foot. Aujourd'hui, les joueurs de foot, ils arrivent avec 500 grammes en trop.
C'est pas la même adrénaline. Mais non, mais c'est pas le même sport. Je suis désolé.
Mais justement,
le foot n'a pas été créé de la même façon que le rugby.
C'est pas la même culture. C'est pas la même culture. Mais si tu dis ça, tu changes rien. Mais si tu pars du postulat que c'est pas une culture, tu changeras jamais rien.
Je n'ai pas dit de rien changer. Je dis effectivement, il faut être préventif, il faut aller donner des leçons aux plus jeunes. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire, de
prévenir. Dans les écoles de rugby, tout se passe. Il n'y a pas de révolution à faire actuellement. Tu ne pourras pas faire avec ceux qui jouent maintenant. Tu ne pourras pas les changer. Mais par contre, faire un travail de fond, et je te rejoins, Denis, sur ça. Un travail de fond dans les écoles de rugby, leur expliquer, leur apprendre. Mais ce n'est pas une révolution, ça. C'est juste de l'éducation.
C'est de l'éducation, absolument.
Ça n'a rien à voir.
C'est de l'éducation, mais c'est une révolution pour le rugby.
Oui, mais
aujourd'hui, il y a des joueurs qui prennent de la cocaïne, ça choque personne.
Mais parce que tout le monde prend de la cocaïne.
T'imagines si d'autres sportifs, si t'avais Novak Djokovic, si t'avais Kylian Mbappé, qui prenaient de la cocaïne.
Mais peut-être qu'ils en prennent. Enfin, c'est rien. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est le monde qui est comme ça. Je pense que on n'a pas pris le virage du changement avec les réseaux sociaux, avec tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui.
Ça va au-delà des réseaux sociaux, quand même, je pense.
Oui, mais enfin, c'est lié tout ça.
Mais Denis, on a un exemple très concret. Il se passe des choses affreuses en Argentine, d'accord ? Tout le monde est conscient de dire ce qui s'est passé, c'est incroyable, etc. Bah, les mecs demandent quand même à sortir. Les mecs sortent quand même de leur côté.
Ils sont sortis
parce que le rugby a été construit comme ça.
Ils étaient interdits de sortir. Ils sont sortis quand même.
Alors, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, quand on parle de révolution, ça voudrait dire que les acteurs, on les oblige à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire.
Oui.
Tu n'y arriveras jamais. Par contre, si tu les prends à la base, tu leur apprends, que tu reprends tout à zéro, t'as une chance.
Il faut bien commencer par un exemple. Et l'exemple, c'est les joueurs professionnels. Parce que si les petits qui regardent leurs idoles, leurs héros, ils voient que leur héros, bah, c'est les troisièmes mutants, on continue comme d'habitude. Tu parles d'une éducation.
La révolution, c'est fait par le peuple. Et le peuple, c'est les joueurs. Si les joueurs ne valident pas, tu n'auras pas de révolution.
T'es sûr qu'ils ne valideraient pas? Philippe Saint-André est avec nous. Philippe, bonjour.
Salut les amis.
Salut. Un ami des grandes gueules du sport, Philippe. Là, il est notre invité sur ce débat, mais vous le savez, vous le retrouverez évidemment dans les GG. Alors, mon cher Philippe, déjà, est-ce que ces états généraux étaient nécessaires? Est-ce qu'il faut cibler l'alcool, la cocaïne? Et les trois habitants.
Je vous écoute. Le débat est intéressant. Alors, première chose, ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise de conscience du rugby français. Je sais déjà, par exemple, que pas mal de clubs professionnels de top 14 et de D2, cette saison, la soirée team building, où souvent, voilà, il y a une grosse troisième mi-temps, où elle a été annulée, où elle a été encadrée. Alors après, c'est vrai qu'on a cette culture de troisième mi-temps, mais qui a toujours été normalement dans le respect. Normalement, quand tu joues au rugby, tu respectes ton entraîneur, tu respectes les règles, tu respectes l'arbitre, et tu dois respecter les gens qui sont autour de toi. Donc là, on a une série de faits divers qui a été terrible pour le rugby français. Je crois que c'est normal de prendre des décisions qui sont importantes. Alors, pour la cocaïne, ce qu'il faut comprendre pour la cocaïne, qui est un problème de société et qui est aussi un problème dans le rugby. Normalement, ça reste 48 heures dans le sang. Les joueurs professionnels, ils prennent un gros risque quand même, parce que s'ils jouent un samedi, le dimanche, normalement, ils sont au repos, mais le lundi, il y a entraînement. Et moi, par exemple, quand j'étais à Montpellier, on avait à peu près entre 7 et 10 contrôles antidopage durant la saison, qui pouvaient arriver le lundi, le mardi ou le mercredi. Donc le joueur professionnel doit être beaucoup plus éduqué, et ça vient dans la formation, mais il prend un risque énorme, parce que le lundi, il peut être contrôlé au niveau du contrôle antidopage. Et après, quand tu es entraîneur, quand tu es manager, on est comme les sports professionnels de haut niveau, on pèse les joueurs en permanence, on leur fait des tests d'urine, on leur fait des fois des tests d'alcoolémie, on leur pose des questions le matin quand ils arrivent. Donc, il y a déjà un contrôle au niveau du très très haut niveau. Par contre, c'est un problème de société, c'est un problème aussi de nos jeunes qui boivent trop, qui, y en a certains, voilà, commencent à avoir prendre des choses pour faire la fête. Et ça, on doit les former, on doit les encadrer, parce que ça devient un vrai, vrai problème, et surtout avec une série qui a été horrible pour le rugby français. Heureusement qu'on a eu la médaille d'or des Jeux Olympiques à 7, parce que on a une série qui a été terrible, et je trouve que c'est normal que Florian Grill fasse ces réunions, cet état, ces états généraux. Alors après, le moment est, on va dire, difficile, parce qu'on est à 6 semaines d'une élection aussi.
Mais oui, ce sera le 19 octobre prochain. Hein.
Voilà, fédéral. Donc je pense qu'il va falloir aussi refaire des choses après ces élections. Mais par contre, il y a eu des problèmes au niveau de l'encadrement des fédérations, et donc c'est normal de remettre des choses en place et essayer d'encadrer les joueurs, non seulement sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect aussi extra-sportif, parce que, et Denis le sait, quand on part en Amérique latine, moi j'ai fait 5-6 tournées en Amérique latine, on sait aussi que on peut aller sur des problèmes et des problématiques différentes, et qu'il faut que informer, expliquer et encadrer ces joueurs, parce que en Argentine, les joueurs étaient très jeunes. Il y a aussi l'exemplarité, mais souvent on parle aussi d'expérience, de joueurs qui sont cadres, de joueurs qui sont importants et des leaders sur le terrain, mais aussi des leaders de vie, des leaders, on va dire même de...
Très bien Philippe, mais pardon, il y a un sélectionneur quand même. Enfin, à un moment donné, moi je veux bien des encadrants pour tout, mais on va pas avoir un encadrant alcool, un encadrant
cocaïne. Oui, mais il y a eu Raphaël Ibanez, il y a eu Joe Mazzoy une époque qui empêchait justement, qui protégeait tout les sélectionneurs fait. De ça. Et c'est vrai qu'en Argentine, ils sont partis sans encadrant, et comme le dit Philippe, avec cette volonté de faire l'équipe de France en développement, donc des jeunes de 20 ans qui se sont retrouvés seuls en Argentine, sans personne pour les encadrer.
Ok, Denis Charvet.
Non, je voudrais demander à Philippe, parce qu'on entend plein de rumeurs sur la cocaïne, mais tu me dis les contrôles, mais aujourd'hui on me dit que les joueurs, ben, ils anticipent, c'est-à-dire quand tu me dis un contrôle lundi, la cocaïne ça reste 48 heures je crois.
Ça, oui. 48 heures, oui, mais Denis, ils peuvent pas le savoir, parce que nous, quand le contrôle, tu le sais le matin, tu arrives à 6h30 du matin, et à 7h les personnes arrivent et te contrôlent 7, 8, 10, 12 joueurs, etc. Ce qui est important à savoir, c'est que ben, sûrement comme dans le vélo, mais comme dans tout sport de très haut niveau, je parle de vélo parce qu'il y a Marc qui est là, mais on doit donner le programme, l'organisation, où on va s'entraîner et tout, sur un programme sur 6 semaines en avance, pour que les personnes qui s'occupent des contrôles antidopage puissent avoir un suivi des joueurs et des équipes. Alors c'est vrai que ce que je dis, c'est que je suis plus manager depuis un an, mais c'était important pour moi d'en parler aux joueurs, et que ils prennent un risque incroyable quand c'est leur métier et tout, de faire des conneries comme la cocaïne, parce que le test antidopage le lundi peut tomber, et le mec peut perdre d'abord sa carrière, sa vie, son gagne-pain aussi, parce que c'est des professionnels.
Oui, mais à partir du moment où il est tombé, on est d'accord que ça va pas retomber 3-5 fois dans l'année, donc ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont tranquilles plutôt.
C'est un tirage au sort, Fred. Donc
c'est un tirage au sort pour le contrôle antidopage, mais c'est très ponctuel.
On va pas faire sur les contrôles antidopage. Moi, je voudrais faire sur l'encadrement quand même. C'est-à-dire que bon, il y a la disparition tragique de ce jeune Mehdi là, où évidemment la famille a porté plainte, où on parle d'un encadrement assez laxiste en Afrique du Sud.
Ça, c'est un vrai problème.
Non, mais c'est à chaque fois, c'est l'encadrement. C'est-à-dire que pour Oradou et Jégou, c'est l'encadrement, le staff qui n'a pas assez prévenu les joueurs, qui leur a pas dit non, mais là, vous sortez pas, c'est interdit, tout ça. À chaque fois, c'est un problème.
Mais si, tu peux pas comparer.
Non, mais regarde, pour l'exemple en Argentine, lorsque l'affaire Jégou-Oradou a éclaté, Jean-Marc Lhermé et Florian Grill sont partis en Argentine. Il y a eu le match en Uruguay au milieu de la semaine, et donc ils ont fait le dernier match en Argentine le dernier soir, et donc Florian Grill et Jean-Marc Lhermé étaient là, donc pour te dire, des vrais encadrants, et les joueurs, malgré ce qui venait de se passer, ont été voir Florian Grill et Jean-Marc Lhermé pour leur demander s'ils avaient l'autorisation de sortir une semaine après l'affaire Oradou.
Et c'est pour ça que
donc
à ce
moment-là, le président a dit non, vous n'avez pas le droit de sortir, mais certains joueurs sont quand même sortis malgré l'interdiction dite par le président de la Fédération française de rugby, j'y sais quand même.
Et pour moi, tu compares deux choses qui sont complètement différentes. Il y a une chose où l'encadrement doit protéger les jeunes,
évidemment,
et les amène dans de l'eau, et ils doivent savoir que cet endroit est dangereux, etc. Et l'encadrement là est responsable. Pour moi, un encadrement est moins responsable. Expliquer à des mecs que être bourré et aller faire des conneries, c'est pas bien. Ça, par contre, ça me choque. C'est que pour moi, c'est deux choses complètement différentes.
Je pense quand même que de tout temps, de toute tournée, il y a l'autorité. Enfin, Philippe l'a connu. Je pense qu'il y a une autorité qui doit être là dans l'institution, et je pense qu'il a manqué cette autorité-là. Quand je dis autorité, c'est un Joe Mazzo, c'est un Raphaël Ibanez, c'est une figure de proue qui est...
Savoir quand s'arrêter, c'est ça?
Oui, et puis qui est respecté. Je veux dire que le problème, ils ont l'impression, alors c'est qu'une impression, que les garçons, ils sont partis, alors ils étaient jeunes, c'est Philippe qui l'a dit, je crois qu'il a raison, c'était des très jeunes joueurs, mais il manquait d'autorité, il me semble. Voilà,
Denis, où t'as raison, c'est qu'à un moment donné, voilà, l'autorité, quand tu représentes l'institution, si tu leur dis tu sors pas, et ben, les mecs ne doivent pas sortir. En plus, c'est des professionnels. Tu as aussi le fait, si tu sors, ben, tu seras pas sélectionné en équipe de France pendant 2, 3 mois, 6 mois. Toi, Denis, t'as connu avec Berbiz où ils nous demandaient de pas sortir, et si on sortait à 7h du matin, on allait faire 15 km avec lui et il nous fouettait au niveau physique.
Et ça vous est déjà arrivé, je le sais, les copains, ça vous est déjà arrivé de faire le mur, quoi, de pas respecter les consignes?
Jamais.
Oui, mais on a fait des 15 km le lendemain.
Non, jamais. Oui, okay.
Non, mais par contre, sur le.
Non, mais à notre époque, petit, tu sortais, tu étais viré, hein. Tu revenais jamais en équipe de France.
Et sur le petit Mehdi Nargissi, voilà, il y a eu sûrement une erreur de la part du staff, et c'est pour ça que je pense que Florian Grill a été transparent depuis le début. Il comprend même que les parents portent plainte, et c'est pour ça que aussi que cette réunion a été importante, je pense, à Marcoussi, parce qu'il va falloir renforcer les staffs. C'est vrai ce que dit Denis, avant il y avait toujours un dirigeant de la Fédé,
une figure paternelle, on va dire,
une figure, voilà, qui s'occupait pas du sportif, mais qui s'occupait de l'extra sportif, et je pense que maintenant, avec ce qui se passe actuellement, avec des mauvaises habitudes, et là je reviens sur ce que disait Fred, je crois qu'il faut qu'on reparte aussi dans la formation, dès l'école de rugby, sur l'encadrement, sur structurer, sur bien informer, sur former nos jeunes joueurs. Et on doit être beaucoup, beaucoup plus strict. J'ai envie de dire que la troisième mi-temps au rugby a toujours été importante. On est passé entre les gouttes. Maintenant, il y a eu des vrais problèmes. Maintenant, l'évolution, les réseaux sociaux font que tu ne peux plus faire des choses que tu pouvais faire il y a une dizaine d'années. Et donc là-dessus, maintenant, il faut s'encadrer, se structurer, prendre l'exemple, par exemple, du foot, qui souvent, quand ils font des soirées, eh ben, c'est des soirées privées, c'est des soirées où il y a peu de personnes, où c'est dans des hôtels, dans des chambres d'hôtel, dans des salles de réception. Et à un moment donné, eh ben, le rugby français, avant, voilà, on s'ouvrait au monde, on s'ouvrait au grand public, on était au milieu de tout le monde. Maintenant, ça passe plus, et donc il faut prendre des initiatives.
Ok, merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous, et à bientôt dans les grandes gueules du sport. Merci à Julien Landry également pour toutes ces précisions sur ces états généraux. Nous terminons à 79%. Je n'y crois pas à cette révolution dans le rugby français. 10h32, on se retrouve dans quelques instants pour parler des tennisman français, le fiasco à l'US Open. Est-ce qu'il faut encore s'indigner, oui ou non? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h37 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi. Ça commence à 9h du matin désormais. Voilà, vous allez avancer un petit peu le réveil. 9h, midi, 3h.
On est payé, nous, de 9h à 9h30?
Ah, je pense pas.
Non, je crois pas.
Attends, je me renseigne.
Mais t'es pas payé de 9h à midi, tout ça.
Je me renseigne. C'est du bénévolat. Bravo, ça t'honore, mon cher Denis. Denis Charvet, Fred Weiss, Marc Madiot. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque, vous avez proposé un débat. Et pour l'instant, c'est Denis Charvet qui gagne avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est nul. Tu nous diras pourquoi si tu gagnes. Mais pour l'instant, tu es devant les amis Marc Madiot et Fred Weiss. Vous pouvez aller voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Et restez bien avec nous à partir de 11h. Le cirque à la Ligue de football professionnel. On s'empare du débat. On va tout vous expliquer. Gervais Martel, qui est écarté pour l'instant des parrainages, sera notre invité. 1995, pour la première fois depuis 29 ans, il n'y aura pas de joueur français au troisième tour de l'US Open. Après des JO catastrophiques, le tennis français a remis ça cette semaine à Flushing Meadows. Eric Salio, notre envoyé spécial, a retrouvé Arthur Fils après son élimination. Lui qui était le dernier français en lice. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Il y a eu la sinistre hausse des jeux, je parle globalement, bien sûr. Là, il n'y a plus de français dans le tableau. C'est très nul.
Hein ?
C'est très nul. C'est très nul. C'est très nul et on n'arrive pas. Enfin, ça nous laisse presque sans voix, quoi, ce bilan, alors qu'on a des joueurs. Enfin, c'est dur à comprendre, à analyser.
Moi de même, je comprends pas. Pas ça.
Et voilà cet échange entre Eric Salio et Arthur Fils. Eric Salio qu'on retrouvera dans quelques instants. Faut-il encore s'indigner après ce fiasco des Bleus ? Oui ou non ? Fred Weiss ?
Non.
Marc Madiot ?
On peut toujours.
On peut toujours. Denis Charvet ?
Oui.
Oui. Retrouvons justement Eric Salio à New York. Avant de débattre, l'homme des questions vicieuses, hein, vous l'avez entendu, Arthur Fils. Salut Eric. Comment expliquer ce nouveau fiasco du tennis français ?
Oui, salut les grandes gueules. Franchement, salut. Tombe de haut parce que le dernier Wimbledon avait été prometteur. Trois bleus en huitième de finale, je le rappelle. Et au début de cette US Open, avec 14 garçons sur la ligne de départ, dont deux têtes de série, la débâcle semblait impossible. Mais il y a les aléas de la compétition, comme le virus contracté par Hugo Humbert.
J'ai passé une nuit horrible, j'ai vomi, diarrhée, et puis ce matin, j'ai rien pu manger. Donc en plus des conditions extrêmes, j'ai senti que j'avais pas du tout d'énergie aujourd'hui, donc c'était compliqué. Ouais.
La chaleur et l'humidité ont constitué un cocktail fatal à Arthur Rinderknecht, qui n'a pu tenir un avantage de 2-7-0 face à Andrei Rublev.
C'est extrême. Enfin, j'attends le jour où il va y avoir un accident. Quoi, je pense, parce que ça arrivera. On est tous des chiens de la casse sur le court. Il n'y en a pas un qui lâche quoi que ce soit. On réfléchit pas et on fonce dans le truc. Il fait 4000 degrés. C'est dangereux pour l'organisme et les matchs sont de plus en plus physiques. Daniel l'avait dit, je crois, l'année dernière. Il a dit, mais un jour, il y a un gars qui va mourir sur le court. Alors mourir, je sais pas, mais je pense qu'il se passera un jour quelque chose, quoi, parce que c'est extrême quand même.
La grosse désillusion a été enregistrée par Arthur Fils, éjecté par un Canadien issu des qualifications. Vous avez entendu son « c'est nul ». Adrien Manano prenait également conscience de la situation.
Je ne pense pas qu'on se tire vers le bas les uns les autres, mais je pense qu'on n'est tous pas au niveau où on devrait être, malheureusement. Et voilà, va falloir chacun de notre côté ou ensemble remédier à ça, parce que c'est vrai que c'est un peu triste d'arriver. Hein. On est jeudi soir, il n'y a plus de Français, c'est un peu dur.
C'est surtout la deuxième claque en peu de temps après des Jeux Olympiques catastrophiques et la troisième gueule de bois peut arriver très vite puisque l'équipe de France de Coupe Davis va jouer un tour compliqué mi-septembre à Valence face à des pays comme l'Australie, l'Espagne et la République tchèque.
Merci Eric Salio à New York, un des mots forts des tennismen français, vous les avez entendus. Faut-il encore s'indigner ? C'est non pour Fred Weiss, pourquoi non ?
Ben franchement, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vraiment enthousiasmé pour le tennis français ?
Il y avait Wimbledon quand même. Il y avait un petit peu. En fait, trois Français en huitième, quoi. Il y avait un espoir.
Alors, objectivement, si on est tous contents qu'on soit en huitième, c'est qu'il y a un vrai problème. On peut pas s'indigner.
Il y a un vrai problème.
Honnêtement, on peut pas se satisfaire seulement d'être en huitième. C'est quand la dernière fois qu'on a vu un Français être en demi, en finale d'un grand chelem ? Ça n'arrive jamais. Donc honnêtement, comment on peut continuer à s'indigner ? C'est juste une constante. Le tennis français va mal depuis depuis énormément de temps maintenant, et on s'indignerait maintenant. Ce serait une surprise. Oui, parce que l'année dernière on a été tellement bon. Roland Garros, on a été tellement bon. Honnêtement, je ne comprends même pas que mes collègues puissent dire on peut s'indigner. On s'indignerait de quoi ? C'est-à-dire que d'habitude on a des performances et que là on n'en a pas ?
Non, là où on peut s'indigner, c'est qu'il n'y a jamais un espoir qui sorte du lot, quoi.
Oui, mais on
c'est
est habitué
comme,
en fait.
Comme dans les autres pays, comme aux États-Unis, tu prends. Il y a toujours quelqu'un qui sort du chapeau. Nous, ça fait quoi ? 30 ans ? 20 ans ? 30 ans ?
On est constant dans l'effort, moi, je trouve. Donc il n'y a pas d'annihilation.
Moi, je dirais moins quand même, avec les mousquetaires. Il y a eu des demi-finales, il y a eu des finales.
Il y a 15 ans.
Ah oui, mais tu me parles de 30 ans.
Non, mais il y a un vrai problème. Regarde, Jubicic, qui est le responsable des équipes de France, il a quand même posé sa démission parce que les résultats étaient catastrophiques.
Après les JO, oui.
Après les JO.
Et ça a été refusé.
Ça a été refusé, donc il y a un vrai problème.
Et cette semaine, la FFT a renouvelé sa confiance à Ivan Jubicic.
C'est justement le problème.
Qui n'est pas à New York, hein.
Oui, c'est justement le problème. J'ai l'impression qu'on ronronne dans cette fédération par rapport à la gestion de ce sport. On ronronne, on est dans l'entre-soi, dans une forme de de protection les uns envers les autres, et il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit, ni du fonctionnement.
Non, mais la formation, il y a de la formation. Je ne pense pas qu'on puisse taper sur la fédération comme ça. De la formation, il y en a. Il y en a. Il y a des centres.
Il ne se passe rien.
Oui, mais après.
Vu de l'extérieur, il se passe rien.
Oui, non, mais tu as raison. Mais après, nous, on est très exigeants parce qu'on veut. On attend le champion de.
On n'est pas exigeant. Denis, on est content quand on est en huitième. On peut pas dire qu'on soit exigeant. On demanderait un quart, une demi. Si on demandait à chaque fois des demi, là, on serait exigeant. Dire les gars passez au moins la première semaine, je suis pas sûr que ce soit si exigeant que ça, c'est juste normal. Sauf que encore une fois, on est tellement habitué, et je suis désolé pour le mot que j'ai employé qui est pas très joli, la médiocrité du tennis, que moi je m'attendais à plus vulgaire.
Non, moi je pense
pas
que tu peux pas parler de médiocrité, c'est pas possible, c'est du sport de très haut niveau.
Mais quand tu as l'une des fédérations les plus riches de France, oui, évidemment quand même.
Mais pourquoi c'est une obligation que des générations soient très très performantes. Je suis désolé.
On a une
génération qui est pas performante. Donc ça c'est un constat qui est froid, mais peut-être que les joueurs sont pas au niveau tout simplement, ils sont au niveau qui est le leur. Je suis désolé. Mais
donc en quoi il faudrait s'indigner alors s'il joue au niveau qui est le leur
de 7 à 0 le ring de moi parce que voilà, il vient de 7 à 0.
Pas de la chance hein. Ouais. Bonne humeur pour la rentrée.
Je savais qu'il fallait pas que je le fasse. je suis passé entre les gouttes.
Comment il s'appelle?
Non, ça va. C'est quand même dur de prononcer. Et il mène de 7-0, il contrôle tout le match et tout, il s'effondre. C'est pas un problème que tennistique, je suis désolé.
Un problème physique.
Il y a quand même un problème physique.
Un problème mental.
Puisqu'il mène de 7 à 0, oui, il écrase son joueur.
Encore une fois, Denis, c'est la question.
Et il joue Rublev. Il joue pas un petit joueur, il joue Rublev. Qui est le numéro 6-7 français au mondial. Non, mais il y a quand même, ça va pas au-delà que du tennis. Puis je veux dire que la qualité du tennistique, je suis désolé.
Oui, mais t'es en train de me dire que tu t'indignes de voir des joueurs jouer à leur niveau. Ben moi, je m'indigne pas. Je constate. Non, je suis triste. Non. J'aimerais que ça soit mieux, mais non, mais
je
sais tout quoi.
Je m'indigne pas du tout. Je pense que il faut pas en vouloir aux joueurs d'être aussi peu performants.
Oui, mais Denis, la question c'était de savoir si on peut s'indigner. Donc t'es d'accord avec moi.
On n'a pas à s'indigner pour
voir des joueurs jouer à leur niveau.
Poser la question pourquoi il y a autant de joueurs qui sont pas à un très bon niveau.
Oui, voilà.
Ou
c'est
à leur niveau ou à un meilleur niveau général par rapport à la concurrence. Je pense qu'il y a quand même un déficit. Je vois ça de ma fenêtre, hein, elle est assez éloignée du terrain au concret sur le tennis, mais on a quand même l'impression qu'il y a une forme de laxisme et de tranquillité. On a une fédération.
D'impuissance, j'ai envie de te dire. D'impuissance.
Je suis même pas sûr que ce soit de l'impuissance, c'est une tranquillité du monde du tennis en France. Une forme de tranquillité, on est tranquille.
On parlait d'exigence, je suis d'accord avec toi, Marc. On a l'impression qu'il n'y a pas une exigence folle sur le tennis. On est content, on vivote, on fait des huitièmes, on est content. En Roland Garros, on avait un joueur et une joueuse qui étaient en huitième. Tout le monde était, pourquoi pas croire au renouveau du tennis français? On était en huitième. Et pour nous, c'était une performance.
Il y a une explication qu'on n'a pas eue de la part de Gilles Moreton. C'est pourquoi il a refusé la démission du responsable des équipes de France. Pourquoi?
C'est la dernière fois que Gilles Moreton a donné une interview, c'est difficile d'avoir des propos.
Non, mais c'est la réalité. Pourquoi on n'est pas informé de... Parce que quand même, c'est...
Pourquoi? Parce qu'il voulait le garder diriger le plus haut niveau.
Oui, mais s'il veut s'en aller, ça veut dire s'il s'en va, ça veut dire qu'il veut plus être là.
Ou alors il veut une réaction, Denis. Ça peut être aussi, je pose ma démission.
Ce qu'avait dit Ivan Ljubicic à l'époque, c'est les résultats sont catastrophiques, c'est la réalité, il faut absolument prendre ses responsabilités. J'ai proposé ma démission du poste parce qu'on n'a pas réussi à préparer les joueurs pour les Jeux Olympiques.
Tout est dit. Tout est dit, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et le problème, lui, il a l'impression qu'il met le doigt sur le problème et qu'il a pas les moyens de le solutionner.
Oui, non, en fait, il est en train de dire qu'il y a un problème, il est pas en train de dire j'ai des solutions pour résoudre le problème.
Je te dis,
ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire qu'il y a des problèmes. Quand t'as pas de résultats, il y a des problèmes, forcément.
Bon, on parle aussi beaucoup de gouvernance, hein. C'était le cas avec le rugby, c'est le cas avec le tennis, et dans quelques instants, à partir de 11h, on parlera dans le foot, hein, avec la LFP.
C'est de l'eau au moulin.
Eh oui, il va voir le filet à partir de 11h. Oui. Marc Madio sur le cirque à la LFP, restez bien avec nous. Je vous redonne cette information si vous n'étiez pas là il y a une heure. Novak Djokovic s'est fait sortir au troisième tour de l'US Open, comme quoi il n'y a pas que le tennis français qui n'arrive pas à performer à New York.
Oui, mais lui, il a 24 titres.
Hein. Oui, bon, ça va, c'est un épiphénomène. Oui. On se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Vous avez proposé trois débats, les copains. J'ai du Vincent Collet, j'ai les anneaux olympiques, pourquoi ils ne sont pas pour les Jeux paralympiques, et j'ai également du tirage au sort de la Ligue des Champions. C'était nul. Qui a gagné? Réponse dans... une minute, on revient à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
10h49, de retour dans les grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Denis Charvet, Fred Weiss, Marc Madiou. À partir de 11h, le cirque pour la présidence de la LFP. On va tout vous raconter, on va tout vous dire. Gervais Martel, qui est pour l'instant recalé des parrainages, sera notre invité. Hier, il était furieux. On verra s'il est encore furieux aujourd'hui et quel recours il pourrait faire pour avoir justement ses parrainages. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, mes GG.
RMC, les GG contre-attaque.
Alors, trois propositions ont été faites ce matin par nos GG. Trois propositions de débat. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte X des grandes gueules du sport. À la dernière position, Marc Madiou, seulement 16%.
Ah bon ?
Où sont passés les anneaux olympiques pour les Jeux paralympiques ?
Ah, je pensais vraiment faire un gros score.
T'as pris le branlé.
Ouais.
Mais 16%, c'est un gros score. C'est médiocre quand même.
J'attendais.
Non, c'est très médiocre.
J'attendais un peu plus.
Oui, c'est médiocre.
Bon. Denis, t'as la victoire.
33% pour notre ami Fred Weiss et Vincent Collet. Ça y est, c'est terminé. Rideau pour le sélectionneur historique de l'équipe de France. 15 ans à la tête. Mais bon, c'est pas passé. 33%. On n'en parlera pas aujourd'hui. Peut-être demain. Retente ta chance.
Je retenterai demain. Denis,
tu peux retenter ta chance.
C'est
merveilleusement marché. Lui.
Mais oui, c'est possible.
Demain, on
commence.
Je retourne un peu la question et c'est bon.
Ouais, faut changer la question. N'est pas prolongé. Il a gagné avec 51%.
Ouais, alors,
le
je pensais jamais que j'allais gagner.
De la Ligue des Champions, c'est nul. Essaye de convaincre l'Assemblée.
Écoute, mais je dois être vieux jeu parce que pourquoi ça m'est venu à l'idée.
Pas toi.
Ça m'est venu à l'idée ce débat parce qu'en fait, je me suis mis devant la télé, je regardais le tirage au sort. Je trouvais ça totalement insipide. Pourquoi ? Parce qu'avant, ce qui faisait le charme de ce tirage au sort, c'est qu'il y avait des stars qui prenaient des boules, qui ouvraient les boules, et t'avais la surprise, et t'es jusqu'au dernier moment, tu regardais. Puis là, il y a plus rien, c'est le vide sidéral. Il y a un ordinateur qui tire au sort, quoi. Ça sort.
Mais vu la nouvelle formule, c'est difficile de faire.
Oui, alors tu vas me dire, oui, voilà, évidemment. Mais moi, je suis nostalgique de cette période où il y avait un cérémonial comme ça, on l'attendait tout le temps. On l'attendait tous. Souviens-toi, tirage au sort, bien ouais. Là c'est fini
en général. Hein, c'était toujours à midi.
À midi, mais t'étais là, tu dis bon, qui va prendre qui, mais tu te mettais devant la télé, là c'est fini. Là il faudra attendre le tirage, et puis tu regarderas sur l'équipe ou sur ton iPhone.
Oui, il n'y a plus besoin de regarder le tirage.
C'est le côté humain.
C'est le côté, et puis j'aimais bien aussi qu'ils trichent un peu, les gens.
Il n'y a jamais eu de triche, évidemment.
Ah bon,
j'aimais bien qu'ils trichent.
Tu sais qu'il y a eu des boules noires, des boules chaudes, froides. Oui, ça existait.
C'est un mythe, ça, ou pas?
Ah non, c'est pas un mythe.
Ça a vraiment existé, les boules chaudes?
Pas que dans le foot.
Oui, d'accord.
Alors, moi, j'ai peut-être ton avis au départ.
Ah.
Quand j'ai regardé le tirage au sort, j'ai dit putain, c'est bidon. Qu'est-ce que je fais là? Regardez ça.
On rappelle qu'il y avait une tête de série tirée au sort, par exemple le Real Madrid, et qu'ensuite Cristiano Ronaldo appuyait sur un bouton, et là, les 8 matchs défilent pour le Real Madrid.
Alors, j'ai passé au moins une demi-heure à attendre des explications du bon fonctionnement et comment allait se faire le tirage et comment on allait classer les équipes. Alors, c'est mon fils qui m'a réexpliqué, j'ai fini par comprendre.
C'est pas qu'il comprenait tout, ton fils en plus.
Il était meilleur que moi, en tous les cas, sur le coup. Mais, sur le tirage au sort, je suis 100% d'accord avec toi. Mais in fine, quand on regarde le résultat.
Oui, mais là, tu parles du résultat.
Ça va être vachement intéressant.
Ah non, mais là, tu parles de la formule, c'est pas pareil. Je parle du tirage.
Ah non, mais le tirage, c'est bidon.
Si je te parle de la formule, j'adore la formule, la nouvelle formule. Parce que.
Ah ouais.
Ça, c'est.
La nouvelle formule, au début, je me dis, que je sais que ce truc. Puis après, je me dis,
mais le tirage.
Je rappelle qu'il y a un championnat unique. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller retrouver ces informations sur rmcsport.fr. Je vais pas vous faire tout le. Mais il y a un championnat unique avec 36 équipes. Et donc, chaque équipe rencontre 8 clubs.
Ouais.
Voilà, aller-retour, enfin il y a 4 matchs à la maison
et on refait pas les retours. Non, c'est pas les retours.
Tu n'affrontes pas les mêmes équipes.
Je trouve que on compte
8 équipes différentes. Voilà, ouais.
C'est totalement à l'envers de ce qu'on faisait précédemment avec les groupes et les matchs aller-retour, et je trouve que ça donne un piment, ça va potentiellement donner un piment supplémentaire à la compétition, et ça va nous permettre de voir
ouais, mais c'était pas mon débat, hein. C'était pas mon...
Non, mais ton débat, je l'entends, je
comprends.
Moi aussi, je suis comme toi,
j'ai
la boule chaude, la boule froide.
Le mec a gagné, il croit qu'il a le droit de dire ce qu'il veut.
Mais oui, absolument, quand tu gagnes, chose que tu veux.
Non, mais après, ça va se passer, il y a le championnat unique, après les 8 premiers sont directement qualifiés en 8e de finale, et du 9e au 27e, il y aura une sorte de 16e de finale pour savoir.
D'ailleurs, tu rencontres 8 équipes, et c'est 7 équipes que tu rencontres. Tu as dit, il rencontre 8 équipes.
7.
C'est 7.
Non, il n'y a pas de groupe de 8, c'est un championnat unique. Non, tu rencontres, tu fais 8 matchs.
Ouais, 8 matchs.
Oui, mais tu rencontres 7 équipes.
Mais non, c'est pas une poule.
C'est pas une poule.
Ah oui, d'accord.
Mais non, tu fais 8 matchs.
Non, tu fais 8 matchs. Tu as 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Pardon.
Tu vois, ils l'ont embrouillé. À cause de ce tirage, on a perdu une ligue.
Je savais très bien que je parle de la formule parce que ça allait tous vous embrouiller. T'en as pensé quoi, toi, Lucas?
Moi, ça m'a un peu fait rire. Et puis, moi, je croyais que c'était un peu long avant les tirages. Je prends en tête boule.
C'est
plutôt sympa, moi, que ça change d'évolution. Bientôt, ce sera l'IA qui le fera pour nous. Donc, autant qu'on ait encore quelqu'un sur place.
Pourquoi c'est pas l'IA déjà?
Si.
Ah bon.
Puis sur le reste, mais parce que t'as quelqu'un quand même qui appuie sur un bouton.
Oui, oui. Ouais,
t'auras même plus ça après.
Ok, ça t'a plu ça.
Ça m'a plu. Moi, il faut vivre avec son temps. Okay. Comme Denis, quoi.
Moi, ça me tue. Mais bon, c'est pas grave.
Bon, voilà. C'était le débat proposé par Denis. Ouais, voilà, tu as gagné, tu as pu exprimer cette colère qui n'était pas feinte, même si évidemment c'était pas une grande colère, c'était pas la grande colère de la semaine.
Non,
ça... Mais en tout cas, tu avais envie d'en reparler dans les grandes gueules du sport. Parfait. Dans 5 minutes, restez bien avec nous à partir de 11h. On vous explique tout sur ce qui s'est passé hier à la Ligue de football professionnel. Le cirque continue pour l'élection du président. Ce sera le 10 septembre prochain. Et à l'heure où on se parle, hein, on ne connaît pas encore. Et ceux qui peuvent se présenter, c'est encore un peu flou, mais on va dire qu'ils ont jusqu'au 3 septembre, en tout cas pour que les familles du foot se réunissent et donnent les parrainages, c'est jusqu'au 3 septembre, une semaine avant l'élection. Allez, à tout de suite sur RMC, il y aura Gervais Martel qui sera avec nous.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.